Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 18h pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Nos invités du jour, Danielle Coquel, qui est directrice du CESAD Edora à Noisy-le-Roi. Elle nous parlera de la rentrée des enfants autistes dans une école Élan-Courtoise suite au déconfinement, une école qui comporte une unité d'enseignement maternel autisme depuis septembre 2016. Daye Diakité, président de Mali Lemounou, sera également avec nous pour nous parler des actions de l'association Plaisiroise en faveur d'un camp de réfugiés maliens ravagé par les flammes fin avril. Il nous parlera également des autres actions, elles sont nombreuses, de l'association. Enfin, Laurent Garin, qui est gérant de la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux, nous parlera de la réouverture de la librairie de proximité de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et vous savez quoi ? Ben, il y avait beaucoup de monde pour la réouverture et pour les jours qui ont suivi. Vous retrouverez bien sûr vos chroniques habituelles dans Marmite fait son actu, dans Actu Yvelinoise. Caroline vous parlera du RERV, et oui, la région qui met à l'honneur le vélo. Pierre de l'UFC Que Choisir, dans sa Minute Conso, vous dira comment éviter les pièges tendus par les supermarchés. Et oui, il y en a beaucoup. Il vous dira ça tout à l'heure en fin d'émission. À 17h30, c'est le flash d'actu local. Allez, on commence cette émission en musique et on revient juste après avec notre premier invité.
Parfums d'Orient, sous les tuves, les fumées d'encens, brûle tes poumons dans les torpeurs enivrantes, hume les fleurs, leurs senteurs navrantes, laisse loin la rumeur des villes. Si ta vie est tracée des vies, prends des routes incertaines, trouve des soleils nouveaux, enfile des semelles de vent, deviens voleur de feu, défie Dieu comme un fou, refais surface, loin des fous, la fine force et faiblesse, fais de ta vie un poème. Sois ouragan entre rebelles, Rougan, empereur de brigands, maquin d'Albois, caïman, écris des récits ou te cogner à tes récifs, une feuille blanche et encore vierge pour accueillir tes hérésies. Entre les vies, écris la vie entre les lignes. Fuis l'ennui des villes, les vides, si ton cœur lui aussi s'abîme. Hasta la vista, je reste pas sur place, j'attends pas le visa. Je vais parcourir l'espace, pas rester planté là, attendant que je trépasse et parte vers l'au-delà. Mourir sous les étoiles, pas dans de petits draps. Je vais soulever des montagnes avec mes petits bras, traverser des campagnes, des patelins, des trous à rats. M'échapper de ce bain, trouver un sens à tout ça. Je vais rallumer la flamme, recommencer le combat. Affûter ma lame, me replonger en moi. Un fantôme se pavane dans son anonymat. Rêve d'un pays de cocagne où l'on m'attendrait là-bas. Car dans la ville je meurs, à nager dans des yeux, des regards transparents qui me noient à petit feu. La zone est de mépris, la vague est d'indifférence. La foule est un zombie et je vogue à contresens. Entendre le son des vagues lorsqu'elles s'agrippent à la terre ferme. Cultiver le silence, tout est calme, plus rien n'interfère. Rechercher la lumière, un jour peut-être trouver la clarté. En nous le bout du monde, faire de son cœur une île à peupler. ouvrir de grands yeux clairs au bord d'immenses lacs émeraudes, se laisser émouvoir tôt le matin quand pousse l'aube. Aux premières heures du jour, tout est possible si l'on veut reprendre dès le début, redéfinir la règle du jeu. Briser les chaînes, fissurer la dalle, inventer la lune que tout cela voit, devenir vent de nuit, pousser la voile et s'enfuir vers des rives là-bas.
Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Comme tous les mercredis, 17h à 18h en direct, on vous parle de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs sur le 88.4. Allez tout de suite, notre premier invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Daniel Coquel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du CESAD Edora, c'est une structure de l'association Autisme en Île-de-France à Noisy-le-Roi. Et vous portez le dispositif du EMA, une unité d'enseignement maternel autisme à l'école Willy Brandt d'Elancourt depuis septembre 2016. Vous êtes avec nous pour voir comment s'est passée la rentrée, notamment pour les jeunes enfants autistes à Elancourt suite au déconfinement. Alors pour nos auditrices, nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore les UEMA, est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ?
Alors, les unités d'enseignement maternel autisme est un programme d'État qui était issu du plan Autisme 3 ouais. et qui proposait donc pour 7 enfants de 3 ans qui ne pouvaient pas rentrer à l'école maternelle à cause de la gravité de leurs troubles autistiques, soit en termes de comportement, soit en termes de développement et de communication, de leur proposer donc d'intégrer des unités où tout serait adapté pour eux et en même temps d'implanter cette unité dans une école ordinaire maternelle pour qu'ils puissent vivre à leur rythme des temps d'inclusion de plus en plus importants dans les classes ordinaires et avec les enfants de leur classe d'âge en fait. Donc le groupe est fermé sur les 3 ans de maternelle et les 7 enfants se suivent donc sur ces 3 années. Et donc sur Willy Brandt, il y a déjà eu une cohorte de 3 enfants et cette année ce sont des enfants de 3 ans, une nouvelle cohorte d'enfants, de 7 enfants qui ont intégré l'école en septembre.
Et qui sont encadrés par une enseignante spécialisée, c'est ça ?
Donc oui, donc au niveau de l'encadrement, il y a une enseignante spécialisée qui est enseignante et pilote de l'unité.
D'accord.
Donc elle est chargée vraiment d'organiser le travail pour chacun des enfants et elle est soutenue par une équipe médico-sociale du CESAD qui est composée de 3 éducateurs spécialisés, une psychomotricienne et une psychologue à temps partiel. Et toute l'équipe est supervisée régulièrement par une psychologue spécialiste de l'autisme qui vient tous les mois pour ajuster le travail qui est proposé aux enfants et aussi le travail des professionnels.
Alors la rentrée suite à, bon si on peut parler de rentrée, hein, parce que dans un contexte difficile de pandémie, on va appeler ça la rentrée. Alors c'est fait cette semaine, c'est ça pour ces enfants ?
Oui, c'est cette semaine. C'était prévu la semaine dernière, mais l'école a été fermée en fait au moment où les enfants devaient reprendre le chemin de l'école. Donc l'unité a rouvert ses portes lundi, donc hier.
Alors comment s'est passée la rentrée ?
Alors en fait, très bien pour le seul enfant qui a pu intégrer à cause, il y a eu des problèmes de transport.
D'accord.
Voilà, ce qui est prévu, c'est que les enfants vont être en demi-groupe et ne vont intégrer l'unité que les matins. Déjà la pause méridienne pour des enfants de 3-4 ans c'était compliqué avant le confinement. Donc on a décidé de partager le temps de l'unité sur un temps à l'école pour voilà se réhabituer et puis les aider à respecter les gestes barrières à leur rythme. Donc c'est pour ça qu'il y a deux groupes, un groupe de 3, un groupe de 4. Et parallèlement, les professionnels retournent sur des séances à domicile et aident les familles à reprendre les activités extérieures avec leurs enfants tout en leur apprenant les gestes barrières.
Et justement, au niveau de ces gestes barrières, parce qu'on a eu beaucoup de témoignages de parents notamment qui avaient des difficultés pour remettre leurs enfants dans les écoles. Alors, c'est pas forcément des enfants qui sont suivis dans des structures spécialisées, mais en tout cas autour du handicap. Beaucoup de parents ont eu des difficultés avec même des justifications de certains directeurs ou des directrices d'école qui disaient que ça allait être difficile pour ces élèves de leur faire respecter les gestes barrières et le protocole sanitaire qui était difficile. Voilà, est-ce que vous, c'est quelque chose qui a été difficile à mettre en place, je pense, par exemple, je ne sais pas. On sait que les enfants autistes ont besoin, bon, comme les autres, hein. Ce n'est pas seulement pour les enfants autistes, mais ont spécifiquement besoin de repères, d'être rassurés peut-être plus que d'autres. Et voilà comment ils vont gérer le fait de voir, par exemple, une maîtresse avec un masque.
Oui. Alors, en fait, on a déjà toute l'équipe à réorganiser complètement les locaux, en fait, pour fluidifier, pour instaurer des sens giratoires, pour instaurer aussi des alléger les plans de travail en autonomie pour les enfants. Il y a, voilà, comme dans toutes les écoles, il y a eu suppression des jeux communs, etc. Nous, on a pris l'option de créer autant de caisses que de jeux par thématique pour chaque enfant. Mmh. Donc ça a été un gros travail de l'équipe. Et donc chaque enfant a sa caisse de travail, donc quand il doit travailler à la table, ou une caisse pour ses activités de loisirs, une caisse pour les activités sensorielles qui sont très importantes pour nos jeunes, en fait, et une caisse où il y a plus des choses à explorer. Donc, on a appelé la caisse patouille. Donc, pour chaque enfant, il y a trois caisses d'activités bien séparées, bien identifiées.
D'accord.
Et chaque fois que l'enfant va à une activité, il va avec un éducateur, il est accompagné un pour un.
D'accord.
Voilà. Donc, pour nos jeunes, la distanciation physique, elle va être dans l'organisation spatiale. Donc, les enfants ne sont jamais en même temps sur la même activité. Et ils sont accompagnés. Et comme l'adulte ne va pas pouvoir respecter le 1 mètre de distanciation, puisque nos enfants ont besoin de guidance physique, on a équipé, nous, les professionnels, de matériel de protection supplémentaire. Donc, en plus des masques, les personnes portent des blouses, donc les gens se changent de chaussures, enfin voilà, pour éviter toute contamination, parce qu'on ne va pas se priver de ce contact physique qui va être nécessaire. Et on apprend aux enfants à se laver les mains, et ça c'est la continuité de l'apprentissage qui se faisait déjà au niveau de l'unité. Les sanitaires ont été réservés pour l'UM, puisqu'il y a plusieurs points sanitaires. Comme il n'y a pas beaucoup d'enfants accueillis dans l'école, donc on a pu réserver juste un point sanitaire que pour les enfants de l'UM. Voilà. Et ils ne rentrent pas par la même porte que les autres. Et pareil pour accéder à la récréation, avec un créneau que pour eux.
Voilà. Alors vous le disiez, Daniel Coquin, la rentrée ne s'est faite qu'hier, hein, donc le temps d'avoir des témoignages et des retours, voilà, c'est peut-être un peu court, mais est-ce que vous avez déjà eu quand même des retours sur comment ces enfants ont vécu le confinement et puis comment ils abordent également le déconfinement?
Alors nous, en fait, on n'a jamais arrêté de travailler avec les familles pendant toute la période du confinement. On les appelait tous les jours pour prendre de leurs nouvelles, puisque voilà, on sait que voilà, il y a eu beaucoup de cas de Covid. Donc on s'assurait que les parents étaient en mesure de pouvoir toujours accompagner leur enfant à domicile.
D'accord.
L'enseignante a envoyé toutes les semaines un programme de travail, et la psychomotricienne un programme aussi d'activité physique et motrice à mettre en place avec ce qu'on trouve dans la maison, en fait.
D'accord.
Voilà. L'idée, c'était de pas mettre les parents en difficulté. On a utilisé tout le matériel qu'on pouvait trouver, les ustensiles de cuisine, etc., pour pouvoir continuer à faire du travail avec les familles. Les familles se sont filmées, les éducateurs référents ont visionné les films, et on a ajusté comme ça le travail des familles avec les parents. On a utilisé beaucoup cet échange avec les familles, avec un point une fois par semaine téléphonique, et la psychologue est venue en renfort sur les situations qui étaient les plus problématiques et les plus difficiles. Voilà. Donc on n'a jamais perdu le lien avec les familles, on n'a jamais lâché aucune des familles, alors même que ça a été compliqué pour certaines, hein, vraiment.
Oui, c'est sûr que avoir les enfants et puis il faut s'en occuper après 24 heures sur 24, ça change ouais, de ce que pouvait se faire avec notamment cette unité d'enseignement. On l'a dit tout à l'heure en introduction, Daniel Coquel, cette unité d'enseignement maternel d'autisme de l'école Willy Brandt à Élancourt, c'est la première qui a été créée dans les Yvelines en 2016. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont développées entre-temps? Et puis, est-ce que ça reste difficile à mettre en place?
Alors, en fait, il y en a deux autres qui sont ouvertes. Donc, il y en a une au Mureau.
Oui.
Une sur Sartrouville. Et à la rentrée prochaine, il y aura une autre unité sur le sud du département, à Saint-Émile-les-Chevreuses. Voilà. Donc, c'est un modèle qui fonctionne bien. Alors, ça demande beaucoup d'énergie,
oui,
et beaucoup de travail et de partenariat avec les écoles d'accueil, parce qu'il faut aussi que l'école inclue cette unité, oui, aussi dans son travail. Il y a beaucoup de travail de partenariat avec l'équipe pédagogique. Donc, c'est vrai que c'est un gros travail pour le pilote. Et aussi pour la direction du CESAD, donc de ce travail de partenariat, d'accompagnement des familles aussi, des écoles, des enfants. Ils vont côtoyer un enfant TSA, donc tous les ans on prend le temps de représenter l'unité aux familles, par exemple, de répondre aux questions des familles de l'école, et vraiment l'accueil en termes des familles, des enfants, c'est une expérience aussi riche pour les enfants des écoles, parce qu'ils sont très volontaires pour inclure les jeunes de l'UM dans leurs jeux, ou même au sein de leur classe. Enfin, c'est vraiment sur la première cohorte, on a eu des belles expériences jusque la troisième année. Les parents de l'UM ont été complètement inclus dans la préparation de la kermesse de fin d'année. Enfin, vraiment, une belle expérience d'inclusion.
Oui, c'est vraiment inclusif, ouais.
Oui.
Et dernière question, est-ce que par rapport à ces ouvertures, est-ce qu'elles sont suffisantes pour répondre aux besoins qu'il y a sur le territoire?
Alors, c'est jamais suffisant. Après, vu la prévalence de l'autisme par rapport aux naissances, hein, donc on est presque à 1%, voilà, sur ce 1%, évidemment, il y a des enfants qui peuvent bénéficier des dispositifs d'aide existants, hein, notamment avoir une aide humaine pour l'entrée en maternelle. Mais l'avantage de ces unités, c'est qu'on commence bien l'école, quoi, en fait.
Ouais.
Et on fait l'école, on vit dans quelque chose qui est complètement adapté au handicap, et petit à petit, au fur et à mesure que l'enfant progresse, eh ben, il va un peu plus vers l'extérieur, mais il est bien armé pour aller vers l'extérieur. Mmh. Et ça, c'est vraiment un dispositif qui est très bien pensé pour ça.
Merci beaucoup, en tout cas, Daniel Coquel. Je rappelle que vous êtes directrice du CESAD EDRA et que vous portez le dispositif d'unité d'enseignement maternel autisme à l'école Willy Brandt d'Élancourt depuis 2016. Merci de nous avoir parlé de la rentrée. Et puis, bon courage pour la suite, parce que les enfants arrivent.
Exactement, les enfants arrivent, et dès demain, il y en aura 4 sur l'unité. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir. Voilà, un grand merci à Daniel Coquel pour son intervention. On s'écoute encore un morceau musical et on revient juste après avec notre deuxième invité. A tout de suite.
Il a plus des lames de rasoir sur mon cœur quand tu es parti. L'espoir chevillé à mon âme, je refuse de lâcher prise. Oh, regarde-moi ma jolie, oh, viens dans mes bras ma jolie. Oh, regarde-moi ma jolie, oh, ne fais pas ça ma jolie. J'achèterai un sac Gucci
la musculation et bien d'autres efforts. Oh, regarde-moi ma jolie, oh, sois pas comme ça ma jolie. Oh, regarde-moi ma jolie, oh, ne fais pas ça ma jolie.
Sa jolie est assise chez sa sœur, ses valises à l'entrée du salon et elle pleure. De grosses lunettes noires lui cachent les yeux. Elle porte un t-shirt blanc et ses bras comme le ciel sont parsemés de bleu. Sa sœur lui dit que si elle le fait pas, c'est elle qui le fera porter plainte contre lui cette fois. L'une en rage et l'autre a peur. L'une est grave et l'autre pleure. Oh, pourquoi t'es comme ça, mon joli? Oh, je t'aime, je sais plus pourquoi.
Il est 17h22, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Allez, tout de suite, notre deuxième invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Laurent Garin, bonjour.
Bonjour Noradine.
Gérant de la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux, rouvert au public depuis la semaine dernière après deux longs mois de confinement. Alors première question, Laurent, comment s'est passée la réouverture au public?
Bah, écoute, ça a été joyeux et dense. Donc joyeux dans le sens, les gens attendaient qu'on rouvre, et puis nous on attendait aussi beaucoup de revoir des gens pour discuter un peu de littérature et de livres. Et ça a été très dense parce que toute l'équipe n'est pas revenue en activité à la librairie, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de monde et donc beaucoup de moments où il a fallu un peu cavaler et se remettre un peu dans l'ordre de la marche. Mais voilà, ça a été très joyeux parce que voilà, il y a eu des beaux échanges et des beaux retours avec les gens.
Ben justement, qu'est-ce que vous avez eu comme retour? Parce que on en avait parlé déjà la dernière fois, mais bon, ouais. Les librairies en général ont manqué, aux lecteurs.
C'est ça, le leitmotiv, c'était oui, vraiment, vous nous avez manqué. Alors nous, notre réponse était vous aussi également, vous nous avez manqué. Donc c'était ça, mais les gens se sont vraiment beaucoup portés sur la fiction. Je pense qu'ils ont besoin un peu de s'évader là. Donc le rayon littérature a beaucoup servi la semaine dernière, pour justement répondre à toutes ces envies-là, mais c'est vraiment un besoin de s'évader. Donc on a eu beaucoup de demandes en littérature.
Mmh. Alors justement, comment est-ce que les clients continuent à venir en nombre? Parce qu'on en a parlé la dernière fois par téléphone, vous m'aviez dit que vous aviez beaucoup, beaucoup de monde pour les premiers jours de la réouverture. Alors est-ce que ça se poursuit? Est-ce qu'il y a toujours des personnes qui viennent vous voir?
Oui. Après deux semaines, on peut dire que ça se poursuit. Ouais. Donc oui, on a fait. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a toujours du monde en librairie. On a toujours un nombre un peu limité de personnes. Donc voilà, on atteint souvent cette limite-là durant la journée. Donc c'est plutôt bon signe. Oui, les gens continuent de venir nous voir.
Et justement, comment ils s'adaptent aux conditions sanitaires? Et d'ailleurs, quelles conditions vous avez mis? Quelles choses vous avez mis en place pour accueillir le public?
Alors nous, on n'a pas de restrictions vis-à-vis du port du masque. Voilà, on estimait qu'au niveau de la liberté personnelle, chacun faisait comme il souhaitait. Par contre, on impose à ce qu'il y ait du gel hydroalcoolique mis sur les mains ou un port de gants pour pouvoir toucher les bouquins. Sinon, on ne peut pas toucher les bouquins. Mmh. Et en fait, on a un moyen très simple, très très visuel, c'est on a un nombre de paniers limité. Donc on a 30 paniers, donc on donne un panier par personne.
D'accord.
Et quand il
n'y
a plus de paniers, on ne peut plus rentrer. Il faut attendre que donc un panier se libère, qu'une personne sorte pour qu'une une autre personne puisse rentrer. Donc voilà, donc c'est assez fluide. Et puis nous, on met du gel. Alors il y a quelqu'un qui accueille les clients à la porte et qui leur explique un peu comment ça fonctionne. Et ça se passe plutôt bien. Les gens sont plutôt
réceptifs et ils respectent les règles en tout cas.
Ouais. Oui, sans aucun problème. Oui, il n'y a pas de crispation plus que ça. Là, non, c'est assez fluide, donc ça va plutôt bien. Puis après, on leur explique l'histoire du panier là, et donc voilà, ça se passe bien.
Laurent, est-ce que le confinement va laisser des traces dans les finances de la librairie? Oui, c'est une question compliquée.
Oui, forcément, on ne pourra jamais rattraper le retard là, qu'on a eu durant deux mois. Donc voilà, on va voir comment ça fonctionne, si c'est juste un feu de paille là sur un premier mois où ça reprend et après ça s'éteint, ou si vraiment ça dure qu'il y a une pérennité sur ce mouvement-là. Sachant que nous, voilà, tous les plans qui ont été mis, enfin tous les prêts garantis par l'État et tout le côté financier qui a été mis en place nous permet de vivre pendant une année. Mmh. Donc financièrement, on a une assise pour fonctionner une année. Au bout d'un an, quand il va falloir amortir les prêts, là, c'est là qu'on va se poser la question de est-ce que ça fonctionne ou pas, le nouveau modèle de la librairie, parce que là, il faut forcément réfléchir à d'autres choses aussi en librairie. Mmh. Et voilà, ça, moi, ça me laisse au moins une année d'exploitation sereine et tranquille pour voir ce que l'on peut mettre en place ici et puis pour voir si l'activité est encore pérenne sur l'agglomération.
En sachant que les prêts que voilà, vous avez obtenus, il va falloir les rembourser à un moment ou à un autre.
Oui, c'est le concept.
Donc, ouais.
Non, mais soit on part en amortissement. Donc dans ces cas-là, il va falloir les rembourser, d'autant plus qu'on ne connaît pas du tout le taux. Donc aujourd'hui, on a signé des prêts dont on ne connaît pas du tout les taux. Et contractuellement, c'est noté hein, qu'ils nous disent que ce seront les taux du marché de l'époque. Donc si dans un an, le taux il est à 10%, bah, ils peuvent nous imposer 10%, on a signé pour ça. Mais ou sinon, on peut rembourser. Donc c'est fonction de comment ça va tourner là durant cette année-là. Mais au moins, ça nous donne de l'oxygène pour fonctionner au moins une année. Et après, bah, donc, dans un an, on se reposera exactement la même question que le 15 mars, savoir que faisons-nous.
Il y a un fonds qui avait été notamment envisagé pour venir en aide aux librairies, aux librairies indépendantes. Est-ce que voilà, est-ce qu'il a été débloqué? Est-ce que vous en avez reçu quelque chose?
Alors non, c'est un peu l'Arlésienne. Non, enfin pas l'Arlésienne. Enfin si, on en a beaucoup entendu parler, on l'a pas vu encore. Non, pour le moment, il n'y a pas eu de fonds débloqués. Les fonds qu'on a eu sont, enfin que j'ai moi levé sont les prêts garantis par l'État uniquement. Mais là, le fonds du CNL, du Centre National du Livre ou du ministère de la Culture, j'ai pas encore eu moi de même de communication assez formelle dessus sur si il allait avoir une distribution ou pas pour la. Pour d'accord. Le pavé du canal, je ne sais pas vous dire.
Laurent Garin, pour terminer, est-ce que vous pourriez, je ne sais pas, nous donner un ou deux coups de cœur ou des lectures actuellement qui marchent bien et qui pourraient plaire aux auditrices, aux auditeurs, qui iraient évidemment le chercher chez vous?
Alors, donc oui, il y a Nos espérances de Anna Hope, qui est sortie au mois de mars, tout juste avant le confinement, qui est une très belle histoire, en fait, sur... une vision très sociale de la place de la femme dans nos sociétés à nous sur une évolution entre 1990 et jusqu'à la 2020.
Ouais.
Et voilà, c'est un chassé-croisé entre plusieurs femmes, plusieurs portraits de femmes, de trois femmes. Et vraiment, c'est une très très belle écriture et c'est une très belle réflexion sur l'identité féminine.
Donc c'est un peu votre coup de cœur.
Oui, ça c'est mon coup de cœur, mais qui est quand même assez partagé par les libraires du pavé. Un coup de cœur littérature. Et sinon, écoutez, il y avait Utopie de Thomas More, qu'il faut relire, je pense. Voilà, pour repartir sur d'autres bases ou pas, mais au moins de réfléchir aussi sur la vie politique.
Alors, Utopie, là, vous nous faites remonter au 16e siècle, hein, si ma mémoire ne me joue pas du tout.
C'est presque. Ouais, c'est ça, ouais. C'est 1700. C'est 15 ou 1600, ouais. Donc, voilà, je pense que moi, je me suis replongé dedans là, durant le confinement. Et je pense qu'il y a des choses à tirer dessus. Il y a eu, enfin, ça sert de base à beaucoup de monde, cette Utopia. Et voilà, je pense que c'est une bonne lecture là pour se remettre un peu dans le sens de la marche.
Merci en tout cas, Laurent Garin. Je rappelle que vous êtes gérant de la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux, rouvert depuis près de deux semaines là, et puis on invite bien sûr les auditrices et les auditeurs à aller voir des vrais libraires, voilà, comme ça ils peuvent vous faire des vrais coups de cœur.
Oui, tout à fait, on aura des vrais échanges.
Voilà, c'est ça exactement. Merci en tout cas Laurent.
Vive voix, je vous en prie.
Marmite fait son actu, il est 17h30 tout pile, tout de suite, le flash actu. Allez, un petit flash actu pour vous parler du second tour des municipales. La maire des Clés-sous-Bois, Véronique Côté-Millard, appelle à soutenir son adjoint Philippe Guiguen dans une liste divers droite pour empêcher l'opposition de l'emporter. Un changement de braquet pour la maire qui, au premier tour, soutenait une autre liste, celle de son adjointe Anne-Claire Frémont. En attendant le second tour des municipales qui devrait se tenir le 28 juin prochain, les maires élus dès le premier tour à Saint-Quentin-en-Yvelines, 5 sur 12, ont été officiellement élus pour un nouveau mandat. En tout cas, 3 sur les 5 ont été élus. Laurent Mercart pour Montigny-le-Bretonneux, Grégory Garesti à Morpa ou encore Didier Fischer à Coignières. Pour Jean-Michel Fourgous, maire d'Elancourt, ça devrait se faire aujourd'hui, donc mercredi. Et demain, jeudi 28 mai, pour Bertrand Houillon, maire de Magny-les-Hameaux. Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur le 88.4, Marmite FM bien sûr. Tout de suite, notre troisième invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Daïe Djakité, bonjour.
Bonjour.
président de l'association plaisiroise Mali Lemounou. Vous êtes avec nous pour nous parler des actions récentes de l'association. Les auditrices et les auditeurs vont voir qu'elles sont très nombreuses. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, Mali Lemounou, est-ce que vous pourriez nous présenter l'association en quelques mots?
C'est une association humanitaire et caritative qui mène des actions de solidarité en France et à l'international. Mmh. En France, elle soutient les personnes nécessiteuses telles que les migrants, les sans-abri, les personnes en difficulté lors des catastrophes naturelles, les personnes en difficulté dans les hôtels sociaux, à travers des distributions alimentaires, vestimentaires et d'hygiène. Et dans les pays en voie de développement, l'association mène des actions décentralisées en faveur des enfants orphelins. Mais également, elle fait les mêmes actions qu'elle mène en France, à savoir lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, des distributions également de colis alimentaires, des produits de première nécessité pour soutenir les familles et les aider à se reconstruire le plus rapidement possible.
Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, hein, beaucoup de choses. Hein. Est-ce que vous avez réussi d'ailleurs à poursuivre un peu vos actions pendant le confinement, là, puisqu'on a vécu 2 mois compliqué, hein. D'ailleurs, c'est pas complètement fini, mais bon, est-ce que vous avez réussi à continuer votre travail?
Alors, le confinement n'a pas été, on n'a pas trop été confiné, nous, l'équipe, vu qu'on a été énormément sollicité. Le travail, il a été multiplié par 3 voire 4 carrément, puisque on devait être sur le terrain tous les jours et sur plusieurs secteurs, parce que là, le public, il était assez diversifié, en fait. Alors, on avait dans un premier temps le public habituel, les sans-abri, mais aussi, on avait quelques sans-abri qui avaient été logés dans des hôtels sociaux, comme ceux qu'on avait reçus dans la commune de Plaisir. Au départ, on avait 128 personnes qui avaient été reçues dans un hôtel.
Oui.
Donc, on a dû tout de suite prendre les devants et s'en occuper. Donc, c'était tous les jours des 128 repas à préparer, les repas complets, savoir le repas chaud, de l'entrée au dessert, etc. Donc, ça, c'était très difficile. Mais il y avait également les familles, parce que ce confinement a laissé énormément de personnes sur le carreau.
Ouais.
Donc, savoir que c'est des familles qui sont logées dans des appartements HLM ou autres, mais ils se retrouvaient tout de suite en difficulté. Donc, on a dû également leur préparer des colis alimentaires, hygiène et tout autre pour leur apporter, parce qu'il y en a qui ne pouvaient pas forcément se déplacer pour aller faire les courses. Il y en a qui ont perdu des revenus parce que ils travaillaient sur plusieurs noms, etc. D'autres qui faisaient du black. Enfin, ça a laissé énormément de monde sur le carreau, quoi. On a ce public-là, mais on a également le public des personnes âgées qui, eux, n'avaient pas forcément les moyens non plus d'aller se déplacer un peu partout pour faire leurs courses, etc. Vu que c'était très compliqué. Donc, on a dû les soutenir également en leur apportant des colis et tout ça, à domicile, bien entendu, en tenant compte des gestes barrières de sécurité.
Oui. Alors, vous avez mené une grande action en faveur d'un camp de réfugiés au Mali, un camp qui a été détruit par le feu fin avril, hein, si je ne dis pas de bêtises. Racontez-nous un peu le contexte et puis vous, comment vous êtes intervenu pour collecter notamment des fonds.
D'accord, ok. Alors, dans un premier temps, le contexte, on a 800 personnes qui ont fui la guerre du centre du Mali l'année dernière, dans la première semaine de février, qui sont arrivées sur Bamako et ils ont été installés sur une déchetterie, à savoir qu'ils ont préfabriqué des espèces de maisonnettes avec les déchets plastiques qu'il y avait là-bas. Donc, là, le 29 avril de cette année, et faut savoir qu'au Mali, les déchetteries, elles brûlent les déchets. Il n'y a pas de destruction comme ça se passe ici. Donc, ils détruisaient les déchets à ciel ouvert et tout ça avec le feu. Maintenant, il y a eu un vent qui a soufflé, qui a apporté doucement, petit à petit, des flammes sur le camp. Donc, à partir du moment où une maison a brûlé, vu qu'elles sont toutes collées, et ben tout est parti en fumée en fait. Mmh. C'est parti archi vite. Mmh. Donc on s'est retrouvé avec 800 personnes qui n'avaient plus rien. Même leur bétail, qui est vraiment toute leur richesse à cette ethnie Peul, et ben on voyait les bétails qui avaient brûlé vifs, c'était par terre, c'était vraiment une catastrophe. Ouais. Donc même si c'était pas notre secteur d'activité premier à nous, vu que dans les pays en voie de développement, on intervient d'abord pour les enfants orphelins,
oui.
Mais là on ne pouvait pas ne rien faire. Donc on s'est mobilisé immédiatement, étant donné qu'on a une équipe de Malili Mounou sur place, qui ont été voir les familles. On a fait un listing, en fait, pour savoir qui avait perdu quoi, mais on s'est rendu compte que tout le monde avait tout perdu. Donc, avec la liste qu'on avait, avec les compositions familiales, on s'est dit, il faut déjà leur apporter tout ce qui est produit alimentaire, et ensuite procéder à la reconstruction des maisons rapidement. Donc, comment ça se faisait? Il fallait faire une récolte, une levée de fonds assez rapide. On a fait une communication du coup sur nos réseaux sociaux, à savoir Malili Mounou sur Instagram et sur Association Malili Mounou sur le Facebook. Et puis c'est allé très vite. On a énormément de monde qui ont partagé l'information. On a eu l'aide notamment de Assa Traoré, la porte-parole du comité Vérité et Justice pour Adama.
Adama Traoré, oui.
Voilà, et vraiment, c'est elle qui a boosté le projet en avant. Donc après, à partir de là, franchement, en 4 jours, on avait déjà fait une levée de fonds de 6 351 €.
Oui.
Donc nous, on a fait la première action dès la première semaine, en fait, avec ce fonds-là. Qui a pu, on a, en fait, les 800 personnes sont réparties en 120 familles.
D'accord.
Voilà, donc là, on a pu vraiment donner des colis alimentaires aux 120 familles. Mais c'était vraiment, on avait les colis alimentaires, à savoir un sac de 20 kg de riz, 20 kg de sucre, de lait, etc. Tous les produits de première nécessité, l'huile et tout. Mais également... tout ce qui est lave-main, bidon de réservoir d'eau, on a fait fabriquer ça par une entreprise pour pouvoir maintenir l'eau au frais malgré la chaleur de 45 degrés. Et dès le premier jour, on a pu faire la reconstruction de 20 maisons pour 20 familles. Et là, on a 65 autres maisons qui sont en construction parce que la collecte, elle s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui où on a... quasiment 11 000 € là en caisse. Mmh. Voilà, donc là on a 65 maisons encore qui sont en construction. Donc il va nous rester environ une quarantaine de maisons à reconstruire. Ouais. Mmh. Voilà, mais on est très 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 actif sur le camp parce que c'est vraiment terrible de tout perdre sur une incendie comme ça, quoi. C'est assez violent. On a des enfants, on a des personnes âgées qui sont là-bas, qui n'ont vraiment plus rien. Donc c'était assez difficile. Et puis nous, à l'orphelinat que nous soutenons, nous, à Bamako, on a dû recueillir deux enfants du camp parce qu'ils étaient vraiment tombés très malades liés à tout ça.
Ouais.
Et on va les accueillir le temps en tout cas de la convalescence et après ils pourront retrouver leur famille, quoi.
Mmh. Donc cette action est toujours en cours, hein, pour celles et ceux qui souhaiteraient vous aider pour notamment finir de reconstruire toutes les maisons.
Exactement, oui. Mmh. L'action, elle est toujours en cours. On a une cagnotte qui est disponible sur notre plateforme de communication, à savoir l'Instagram et le Facebook de l'association. Il y a un PayPal, il y a un Hello Asso également, où les gens ils peuvent venir et contribuer à la hauteur de leur capacité. Hein. Ça peut partir de 1 centime à X. Donc voilà, tous les dons sont les bienvenus.
Voilà, vous tapez au Mali.
Aujourd'hui, on ne peut pas envoyer de conteneurs avec la fermeture des frontières. Mm-hmm. Et nous, on a notre équipe qui est sur place. On essaie d'envoyer les fonds là-bas. Et puis eux, ils gèrent et voilà.
Vous tapez Mali Lemounou, hein, bien sûr, hein, dans un moteur de recherche, hein, sur Instagram ou sur Facebook, vous tomberez directement sur le compte de l'association. D'ailleurs, en Mali, les mounous, ça veut dire quoi les mounous et dans quelle langue?
D'accord. Mali les mounous, en fait, c'est dans la langue soninké, c'est l'ethnie soninké au Mali, et ça veut dire les enfants du Mali.
Oui, parce, voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants du Mali dans cette association Mali les mounous.
Exactement. Oui, parce qu'à l'origine, en fait, le groupe a été créé par un groupe d'amis issus de l'immigration malienne.
Ouais.
Mais après, une fois que l'association elle a été créée, eh ben, on a été rejoint par des personnes de tout horizon qui forment aujourd'hui l'association Mali les mounous, qui consiste à venir en aide aux personnes en difficulté, peu importe la couleur, l'origine ou autre, c'est pas ce qu'on regarde. Nous, ce qui est vraiment important pour nous, c'est d'être ensemble pour les autres, comme le dit notre slogan partout, sur notre logo, sur nos t-shirts, etc. Voilà, on a des gens de tout horizon quoi aujourd'hui dans l'association, et on intervient partout dans le monde, hein. Il n'y a pas que au Mali.
Ouais.
On a déjà été au Maroc, on intervient aussi au Sénégal, on projette d'aller aussi au Népal, en Inde, etc. Donc voilà.
Donc ça, c'est les actions à venir, hein, à moyen ou à long terme. Voilà, vous pourrez suivre toute l'actualité de Mali les Mounous sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, vous continuez, j'allais dire, le travail classique, c'est-à-dire les maraudes, les distributions de colis, tout ça, ça continue. Et est-ce que vous avez besoin de bénévoles pour vous aider dans ces tâches?
Oui, on a toujours besoin, parce que comme tu le dis si bien, les maraudes, les actions en France, elles continuent. Donc on a toujours besoin de bénévoles, de dons, etc. Les gens, en fait, nous, on communique nos prochaines actions toujours 15 jours à l'avance en moyenne sur nos réseaux sociaux. Et les personnes qui sont en capacité de venir nous aider, eh ben, elles peuvent simplement nous envoyer un message sur nos différents réseaux sociaux. Et puis nous, on les inscrit et puis on leur renverra les rendez-vous, ce qu'ils vont faire, etc., comment ça va se passer, tout le déroulement. Et puis, elles nous confirment leur présence, etc. On accueille toujours 10 personnes extérieures de l'association dans toutes nos actions pour pouvoir les sensibiliser et les inviter dans une immersion totale dans notre activité, quoi.
En tout cas, merci Daye Diakité. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Plaisir Oase Mali les Mounous.
Vous étiez avec nous pour nous parler des actions, hein, des nombreuses actions de l'association. Bah, écoutez, bonne continuation, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de travail.
Exactement, il y a énormément de travail là qui est en cours. Donc voilà, on aura besoin de beaucoup de courage et du soutien des personnes qui nous suivent, quoi.
Merci beaucoup.
Voilà. Merci à vous.
On s'écoute un dernier morceau musical avant de revenir sur le 88.4 pour la fin de l'émission. A tout de suite.
Yo disfruto la soledad, en realidad no necesito más que una garganta con más de una cuerda vocal. Es mi bastón, el instrumental, para trabajar solo hay que tener ganas de trabajar. Luego plantearse la idea central y deslizarse con un poco de arte en la base. Rima con clase sin que te pase, no vaya a ser que pierdan sentido la frase. A media luz me gusta pensar, mientras más oscuridad, más espiritual es mi ritual. El olor a sándalo en mi cuarto, y mientras más alto es el volumen, más me salto. Yo puedo rimar, rapear, variar, pero lo que más me queda es cantar. Así nací, nadie me puede cambiar, no. Nadie me puede cambiar, no. Música del corazón, música del corazón. Música del corazón, así que sube el volumen. Música del corazón, música del corazón. Música del corazón, así que sube el volumen, sube el volumen. Inspiración, la música más la humanidad, la verdad cuando está ligada a la razón. Quizá día ya no te escriba más, pero mientras pueda, te daré mi canción. Escribiré
para ti o para mí,
escribiré
mejor para nosotros,
para el amor de él que siempre estará en mí, aunque no esté conmigo, aunque no esté aquí.
Yo quiero ir al cielo, yo quiero llegar a él, quisiera quedarme un ratico sobre él. Busco un lugar para que
del corazón, música del corazón, así que sube el volumen, música del corazón, música del corazón, así que sube el volumen, sube el volumen.
Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4, on est ensemble en direct jusqu'à 18h pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Allez, tout de suite, la Minute Conso de Pierre Joanet. La Minute Consommateur avec Pierre Joanet.
Les supermarchés sont des lieux où l'objectif est d'encourager les consommateurs à acheter plus. Pour ce faire, les grandes surfaces redoublent d'idées pour augmenter les ventes. Pour ne pas être tenté d'acheter tout le magasin et tomber dans les pièges des grandes surfaces, il faut faire une liste de courses et s'y tenir. Si vous avez besoin d'un paquet de gâteaux, inutile de prendre un lot de 5. La règle est de mise au rayon fruits et légumes. Dans le magasin, restez vigilant, ne vous attardez pas dans les rayons. Lorsque l'on se rend dans un supermarché sans savoir ce que nous souhaitons, nous ressortons toujours avec beaucoup de marchandises dont nous aurions pu nous passer. L'objectif de la grande surface est alors atteint. Les offres promotionnelles et les lots sont monnaie courante dans les supermarchés. Parfois ces offres sont très avantageuses, parfois elles le sont moins. Pour ne pas se faire berner, il faut simplement regarder le prix au kilo, comparer les lots et les produits à l'unité. Trop souvent le lot est le même, voire plus cher. Les produits comme le café, les jus de fruits, les céréales pour enfants, les pâtes, la lessive ou encore les gâteaux sont très régulièrement en promotion. Dans les supermarchés, les fruits et légumes sont parfaitement mis en valeur. Ils sont humidifiés, bien rangés, voire parfaitement emballés dans de jolis contenants. Ne tombez pas dans le piège. Vérifiez la provenance des produits et assurez-vous qu'ils ne soient pas trop froids. Privilégiez les fruits et les légumes de saison, moins chers, et évitez d'acheter des barquettes de légumes coupés qui ont déjà perdu leur saveur et qui affichent des prix au kilo incroyablement élevés. Au supermarché, les pièges sont nombreux. Les connaître permet de les éviter. Parmi les pratiques les plus courantes, on peut citer les suivantes. Le lait est rangé dans un lieu éloigné pour vous obliger à traverser le magasin entier. Il en est souvent de même pour l'eau. Les produits discount sont souvent rangés en bas des rayons ou en haut. À vue, on retrouve les marques des distributeurs et des grandes marques qui rapportent le plus au magasin. Les grandes surfaces proposent du pain cuit sur place, qui diffuse une odeur formidable et qui nous encourage à acheter. Les jours de grande affluence, il est aussi possible de faire des dégustations qui nous poussent à acheter encore plus de produits. L'attente aux caisses est souvent voulue par les supermarchés, car pendant que vous patientez, vous continuez vos achats. Les caddies sont de plus en plus gros pour vous permettre de bien les remplir. Aujourd'hui, l'une des solutions est de faire ses courses en ligne. Ainsi, vous pouvez comparer les prix au kilo, n'acheter ce dont vous avez réellement besoin et surtout garder un œil à tout moment sur le montant de vos courses. Toutes les grandes surfaces proposent ce service. Nous vous conseillons également de ne jamais partir le ventre vide pour faire vos courses. Vous éviterez ainsi des achats compulsifs comme les sucreries.
Allez, on termine cette émission avec l'actu yvelinoise de Caroline.
Et c'est Caroline qui nous a rejoint. Bonjour Caroline.
Bonjour Noradine.
Tu vas nous parler aujourd'hui d'un certain RER V, V pour vélo, je suppose, proposé par la région Île-de-France. On t'écoute Caroline.
Oui, c'est dans la continuité de ce que je vous évoquais la semaine dernière. Donc la semaine dernière, je vous parlais du plan vélo du gouvernement et de la loi d'orientation des mobilités du 26 décembre dernier, dans laquelle le plan vélo s'inscrit. Et donc aujourd'hui, je vous propose de vous présenter plus en détail les actions menées en Île-de-France et le fameux projet RER V. Joli nom de code. Alors, d'abord, une première question pour toi, Noradine. Est-ce que tu sais depuis quelle année notre région agit en faveur de ce mode de transport qu'est le vélo ?
Ah, ça, c'est une bonne question. Allez, je te dis ça au hasard. 15 ans ?
Non. C'est plus proche.
10 ans.
Qu'elle a mis en place des actions concrètes, vraiment concrètes.
C'est moins de 10 ans ?
Moins de 10 ans, oui.
Bon, bah d'accord, 5 ans alors. Même pas, 3 ans, 2 ans.
2016.
Ah oui, 2016, d'accord, ça fait presque 5 ans. Donc 4 ans.
Presque 5 ans, voilà. Et donc voilà, c'est depuis 2016 qu'elle agit en faveur du vélo. Et une date importante qui marque concrètement l'action de la région, c'est mai 2017, puisque c'est durant ce mois et cette année qu'elle a adopté le plan vélo. Et ce plan vélo régional répond à des enjeux multiples. Des enjeux de mobilité, de qualité de l'air, de santé et bien sûr économique. Donc ce plan en 2017 avait pour ambition de rendre plus efficace l'intervention régionale en faveur de ce mode de transport, donc en développant des déplacements à vélo par des actions coordonnées à l'échelle des territoires, traitant tous les leviers de la pratique cyclable, plutôt qu'en misant sur le tout infrastructure et la dispersion des crédits. Donc, en gros, des investissements pour le stationnement, pour le renforcement du réseau cyclable, autour des gares notamment, et résorption des coupures urbaines. Donc la volonté de la région, c'était de faire du vélo un mode de transport du quotidien. Donc ce plan, il prévoyait d'octroyer sous forme d'investissement, de subventions et d'appel à projet, 100 millions d'euros d'ici 2021 pour atteindre 2 millions de déplacements par jour à bicyclette, soit un triplement par rapport à ce qui était observé en 2010. Et bien maintenant, quelques données chiffrées depuis le départ de ce plan vélo. D'après toi, Nouradine, est-ce que les 2 millions de déplacements par jour à bicyclette, cet objectif a été atteint en 2020
Donc en fait, j'ai trois réponses possibles. Donc j'ai oui, non, oui, ou peut-être. Donc je dirais non.
Eh bien oui, non. Pas encore, ouais. Pas tout à fait. Donc en 2018, une première donnée chiffrée, le vélo ne représentait que 1,6% des déplacements effectués chaque jour en Ile-de-France. Donc sachant que la majorité des trajets des Franciliens sont inférieurs à 5 km, ils privilégient plutôt les transports en commun, donc du type métro et RER. Donc l'objectif n'est pas atteint. Mais par contre, du côté de la région, en 2019, il y a eu des lancements. Le lancement d'un service public régional de location de vélos à assistance électrique, le Vélo Location. Tu as sûrement entendu parler de ce service, cette offre de service qui est proposée par la région et par Île-de-France Mobilité. Alors, ça permet, comme ça l'indique, ça coûte de sens, de louer des vélos à assistance électrique. Et quelques mois plus tard, la région Île-de-France Mobilité ont proposé aussi une aide à l'achat de vélos à assistance électrique. Cette aide à hauteur de 500-600 euros s'applique aux vélos achetés donc à la fin 2019 et elle peut être demandée depuis peu, depuis le 20 février 2020. Et alors, en termes de pistes cyclables, au 26 mai 2020, ce sont plus de 700 km de pistes cyclables et de voies double sens qui ont été financées sur tout le territoire francilien depuis 2016. Et on en arrive à une information importante. La région va mobiliser 300 millions d'euros pour financer le RER V. Et donc le RER V, qu'est-ce que c'est? C'est le, à l'instar des transports RER, c'est le réseau express régional vélo. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça a été imaginé par un collectif, le collectif Vélo Île-de-France. C'est un collectif qui regroupe plus de 30 associations cyclistes franciliennes. Et la région Île-de-France mise dessus, puisque c'est un projet d'envergure. Il comportera à terme 9 itinéraires de 680 km imaginés par le collectif Vélo Île-de-France. Donc les axes les plus stratégiques représentent 2/3 du réseau proposé par ces 30 associations. Et il pourrait être réalisé d'ici 2025. Donc ça, c'est une première phase. Et il y a une deuxième phase d'aménagement qui est prévue d'ici 2030. Alors, les aménagements, ils devront répondre à des principes fondamentaux de la circulation cyclable en Île-de-France. Ce sont la sécurité, le confort, la continuité, l'efficacité, la lisibilité et la capacité. Et prioritairement, il y a 4 axes structurants qui feront l'objet d'aménagements souples et provisoires pour soulager, tu le sais très bien, nous sommes en période de fin de confinement, donc pour soulager les lignes de transport en commun les plus fréquentées, à savoir la ligne 13 du métro et les RER A, B, C et D Sud. Donc le développement du RER vélo joue un rôle d'accélérateur pour multiplier les déplacements à vélo sur de plus longues distances, et il marque vraiment un point culminant, un point d'orgue dans justement la mobilisation de la région pour favoriser cette mobilité douce. Donc là, j'ai fait un bref tour des actions menées par la région Île-de-France. Il y a aussi les actions qui sont menées au sein de la région, plus particulièrement dans notre territoire, dans les Yvelines, et ça, ce sera l'occasion d'une dernière chronique la semaine prochaine. Donc j'ai abordé la notion de comment ancrer une culture vélo dans les territoires, avec justement l'exemple de notre territoire, les Yvelines, et j'aborderai les actions qui ont été menées et à venir par le département. Voilà.
Merci Caroline, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Noradine.
Marmite fait son actu, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine à 17h pour un nouveau direct. Je vous laisse avec Jean-François et le temps ne fait rien à l'affaire à 18h dans quelques instants. Et à 19h, nouvelle émission sur Marmite FM portée par l'association Cœur d'Artichaut, association Ennemontaine. L'association qui vous présente donc l'émission Près du Cœur, cœur comme un cœur de chorale. Une émission à destination des maisons de retraite, des EHPAD. L'association fera partager des poèmes, des chansons, mais également des interviews, des dédicaces à destination de toutes les résidentes et tous les résidents de ces maisons de retraite. Merci en tout cas à toutes et tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite et son actu, une émission présentée par Noradine Agne sur Marmite FM 88.4.